Le ch'ti boui boui.
Le ch'ti boui boui.
La CHAM, ça veut dire déjà classe à horaire aménagée musique.
Chère Sandra, merci d'avoir eu l'amabilité de m'écrire. Écris-moi à nouveau et dis-moi plus sur toi.
Demande d'asile ne veut pas dire souffrance ou malheur.
L'émission est réalisée dans le cadre de l'atelier de découverte radio le samedi matin, de 10h à 11h30 au centre social d'Arras-Ouest.
Bienvenue à tous au Ch'ti Boui Boui sur 99.9 fréquence de TFM. C'est une émission réalisée dans le cadre de l'atelier de découverte radiophonique chaque samedi en partenariat avec le centre social Arras Ouest qui est situé avenue de l'Hippodrome. Dans cette émission, nous vous proposons des chroniques comme chronique musicale, chronique sur la migration, l'agenda. Donc sur ce, je passe la parole à El Hadj.
Avant d'aborder ces thèmes, nous allons vous proposer un reportage de Christelle et Rémi sur la résistance.
Aujourd'hui, j'ai emmené Rémi, donc d'abord à Bourin, parce que les membres du cercle Aragon de l'Arageois organisent une manifestation citoyenne ce samedi, donc à la salle des fêtes de Bourin. Alors, cette animation commence par une exposition. Elle est dédiée à la mémoire des déportés, des résistants et des victimes du nazisme et du fascisme. Il y aura un discours d'accueil et une projection de films de Mourad Lafitte et de Laurence Garzigna, les FTP Moi dans la Résistance. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du nécessaire devoir de mémoire, ce film documentaire nous questionne sur le présent, n'est-ce pas Rémi ?
Oui, tout à fait. Et là, il y a marqué 13h30, ouverture des portes, on rentre parce que j'ai froid.
Je me dépêche alors. Aujourd'hui, face au démantèlement systématique du programme du Comité National de la Résistance, face aux discriminations de toutes sortes, face à la stigmatisation de l'étranger, comment ne pas s'interroger sur cette éternelle stratégie de la peur et sur le sens de toute résistance ?
Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été.
Donc nous sommes avec monsieur...
Aheuve, Alain Aheuve, qui représente l'association Södra Varuska, Nord-Pas-de-Calais, Belgique.
Donc, alors, expliquez-nous un petit peu.
Si vous voulez, l'association représente les prisonniers de guerre français. Vous savez qu'ils ont été à peu près 1 500 000 qui ont été faits prisonniers au début de la Seconde Guerre mondiale. Et parmi ces prisonniers, un certain nombre n'ont jamais accepté l'ordre nazi. C'est-à-dire qu'étant en commando, ils n'ont eu de cesse que de pratiquer des sabotages ou, en camp de prisonniers, d'essayer constamment de s'évader. Et à partir du début de l'année 42, les Allemands ont souhaité éloigner cette mauvaise graine, en quelque sorte, des camps de prisonniers traditionnels et ont décidé qu'à partir de ce jour, tout prisonnier qui tenterait de s'évader ou qui serait surpris à saboter le travail en commando serait déporté dans un camp très à l'est, le camp de Ravarouchka, qui se situe actuellement en Ukraine, à côté de la ville de Lvov. Et c'est à peu près 20 000 prisonniers français qui ont quand même continué, toujours tenté de s'évader, toujours tenté de résister malgré leurs conditions de prisonniers, qui ont été envoyés dans ce camp de Ravarouska.
On est en présence de l'organisateur donc, de cette manifestation. Donc, je vous laisse dire pourquoi vous avez organisé ceci.
Oui, ben bonjour. D'abord, je ne suis pas le seul organisateur. Il s'agit d'une association qui est toute jeune, qui est née depuis un an, qui s'appelle le Cercle Aragon de l'Arageois, et qui est dans ses objectifs justement de s'occuper un peu des faits. Alors vous verrez tout à l'heure dans le discours d'accueil, on parle de, par exemple des événements de Charlie Hebdo, on parle de la montée fasciste, extrémiste et des montées des idées xénophobes et racistes. Donc on a eu l'idée de faire autre chose, comme c'était le mois d'avril, le mois des déportés, c'était normal de faire une exposition sur la déportation, mais on veut aussi faire un lien, un parallèle entre la résistance et la déportation. Il n'y a pas que les juifs qui ont été déportés, dans notre région en particulier, il y a énormément de résistants, dont beaucoup de communistes d'ailleurs. Non, il n'y a qu'à voir le mur des fusils pour savoir ce que c'est, il y en a quelques-uns. Donc on a voulu absolument établir ce lien, ce parallèle, et aussi montrer que les camps de concentration, par exemple, étaient ouverts en 1933, comme celui de Dachau, comme on veut, hein, et ils ont tourné jusqu'en 1945. Et ils ont été faits et créés au vu de tout le gouvernement de Tours qui n'ont jamais bougé. Donc ça, on veut le dénoncer, on veut quand même renouer avec des vraies valeurs.
Et donc par rapport aux événements présents, c'est surtout pour lutter contre aussi les mouvements négationnistes, je pense.
Voilà, d'ailleurs la conclusion de mon discours, c'est que nous n'acceptons pas les déclarations des négationnistes et leur vision de l'histoire.
Donc là, il y a un ciné-débat, en fait, si vous voulez présenter un film.
Donc il y a deux choses, hein. Il y a les figures locales de la résistance, hein, en particulier les familles du Quinoa, de Pierre Boll, et on veut aussi une pluralité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les communistes. Il faut bien, parce que des fois on croit toujours que, mais non, la résistance c'était l'affaire de tout le monde. D'ailleurs, Pierre Boll est un exemple vraiment typique. Par contre, Émile Duquesnoy et Hubert Crépin sont l'exemple typique inverse. C'était des communistes qui ont été arrêtés, torturés et déportés, et qui sont morts en déportation. Donc ça, on veut établir le lien. C'est important. Puis on veut aussi, vu les événements aussi, parler de la Moy, c'est-à-dire de la main-d'œuvre immigrée et des résistants, les FTP Moy, qui étaient le groupe manoukian en particulier, et qui ont fait énormément. Il y a eu un très beau film de fait là-dessus. Les auteurs du film sont là. Vous pouvez les interviewer d'ailleurs. C'est Mourad Lafitte et Laurence Carzien, et qui vont pour répondre aux questions des gens à la fin du film.
Laurence Carzien, réalisatrice du film.
Mourad Lafitte, co-réalisateur.
Donc le film, vous pouvez un peu me présenter l'objet du film, comment c'est venu aussi l'idée de la réalisation du film ?
Alors, le film retrace le parcours des FTP MOI, donc ces jeunes étrangers qui étaient arrivés dans les années 20 en France et qui se sont engagés dans la résistance et qui ont joué un rôle majeur dans cette résistance et dont on a occulté le rôle pendant très très longtemps. Voilà, donc on revient sur leur parcours depuis les années 20, c'est-à-dire qu'on parle évidemment de tous ces mouvements migratoires en France, les Italiens, les Polonais, puis les Espagnols, leur engagement, leur intégration en France, parce que ça c'était très important, la plupart de ces jeunes gens étaient issus de milieux ouvriers et de milieux très engagés. Donc c'est vrai qu'en 40, dès 1940, ils se sont engagés assez logiquement dans cette résistance.
Oui, alors le projet il est né il y a quelques années en réaction au vice-président du MEDEF qui voulait dépoussiérer le programme du Conseil national de la résistance, ce fameux socle social, la liberté de la presse, la sécurité sociale, tous les conquis sociaux et non acquis, hein, parce qu'ils ont été conquis par la lutte, processus du Front populaire hein, naturellement. Donc il y a eu ça, il y a eu le discours de Grenoble sur justement qu'est-ce que l'identité nationale. Alors la résistance, bien entendu, elle est composée de Français, mais également donc d'étrangers. C'était le rôle des étrangers dans la résistance. Et on s'aperçoit, puisqu'on en tourne d'autres en ce moment, celui-là est vraiment d'actualité. Au moment où on est en train de polémiquer sur le détail et sur beaucoup de choses, je crois qu'il est utile un petit peu de faire un retour en arrière.
C'est peut-être bien aussi de rappeler qu'on n'est pas une France d'une couleur, mais qu'on est surtout avec la montée du Front National et certaines idéologies contraires.
Oui, absolument. C'est vrai que l'histoire de notre pays, de notre très beau pays, parce qu'il faut rappeler aussi que ce sont trois mots qui ont fait venir toutes ces familles à l'époque et qui font encore venir les gens aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité, et que ça a du sens encore aujourd'hui. Donc de rappeler que cette histoire, elle se construit à travers différentes identités. C'est vrai que la question de l'identité nationale est une question centrale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'aujourd'hui, il y a énormément de récupération et on galvaude, je crois, certains termes. Et c'est vrai aussi que ce film n'a de sens que parce qu'il s'incarne encore aujourd'hui et que ce qui s'est passé il y a 75 ans, 70 ans, eh bien doit encore nous interroger et doit nous permettre de repenser notre présent.
Oui, sans trop faire de... Enfin, je n'emploierai pas le terme raccourci, mais la résistance ne se limitait pas uniquement à ça, mais dans un contexte, à une époque, des jeunes et des moins jeunes ont su dire non à l'infamie, à la barbarie, au nazisme. Et dans le même temps, dans un pays qui a été dévasté par l'occupant, ils ont été capables d'avoir un projet utopique qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire création de la sécurité sociale, les nationalisations, l'eau, l'électricité, voilà. Donc très utile aussi en ce moment de se rappeler que si on faisait un parallèle avec notre époque, la France était pire en 45 qu'aujourd'hui en termes de dette et en termes d'économie, oui, et que malgré ça, des hommes ont été capables de nous faire rêver, puis de mettre en place aussi un modèle social que le monde nous envie.
Quand on entend en ce moment fréquemment des concitoyens nous dire « on va voter », tel ou tel parti parce que ça on l'a encore pas essayé, et bien se rappeler que si on l'a déjà, on a déjà testé ça il y a 70 ans, parce que il y avait un occupant, mais il y avait aussi un politique, un gouvernement à Vichy, hein, pour ne pas le nommer. Le pays a testé ça, et je crois que ça il faut pas l'oublier. Donc dire qu'on n'a pas encore essayé, c'est une très très grave erreur, et qu'il est bon de regarder en arrière, hein, comme je dis souvent, on dit souvent on regarde dans le rétroviseur pour aller de l'avant.
Est-ce que je peux me permettre simplement de vous interroger pour PFM 99.9, l'émission c'est le Chibouboui, c'est diffusé le samedi quand on a matchère. Vous avez quel âge, sans être indiscret?
84 ans.
La guerre, forcément, ça vous parle?
Cousin de Pierre Boll, je suis un cousin de Pierre Boll qui a été tué justement à Escourt-le-Bas.
Et vous avez acheté donc le DVD du film qui a été projeté cet après-midi à la salle des fêtes de Beaurain. Dans quel but avez-vous acheté le DVD de ce film?
Ben, je pourrais le revoir, mais je veux aussi que toute ma famille le voit. Excusez-moi. En vieillissant, vous savez, on se met à chialer pour rien, quelquefois. J'ai été dur étant jeune, mais maintenant c'est fini.
Est-ce que vous avez des enfants, des petits-enfants ?
J'ai eu 5 enfants, il y en a un qui est décédé. 12 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants.
Alors aujourd'hui, la relation entre un grand-père, un arrière-grand-père et les petits-enfants, est-ce qu'on parle justement de cette mémoire-là ? Est-ce que vous échangez sur justement la guerre ou...
Ils ne sont pas tous là. Il y en a qui sont sur l'île, il y en a qui sont à la campagne. Mais je tiens justement avec ça, je pourrais leur en parler, leur dire de regarder ça jusqu'au bout. Et là, on pourra en parler ensuite.
Alors, je suis en compagnie de...
Fanny.
Quel âge as-tu ?
14 ans.
Alors, 14 ans, tu as forcément entendu parler de la guerre et de la résistance. Qu'est-ce que tu as pensé de cet après-midi ?
J'ai trouvé que ça reflétait bien ce que c'était. Enfin, ils expliquaient bien, et surtout l'exposition. Et après, le film, il parlait bien de la résistance et tout. La résistance, j'en ai parlé en cours de français parce qu'on a étudié des poèmes, mais sinon j'en en ai pas vraiment parlé. On parle surtout des camps de concentration.
Moi je connaissais pas trop, je m'intéresse au sujet. Et puis, comme tout est symbole, je suis directeur d'une école qui s'appelle Jean Moulin, qui est à 300 mètres. Et donc ça m'émeut de voir ça et de voir comment les gens ont pris leur destin en main. C'est vraiment passionnant, au péril de leur vie. Et je veux dire, on dit il fallait résister. Je crois que c'était un droit, mais surtout un devoir. Voilà. Si on pouvait dire ça aujourd'hui à tous ceux qui se laissent séduire par des idéologies fascistes, ça serait vraiment un grand bonheur.
Je voulais savoir ce que vous avez pensé de l'après-midi.
Impeccable l'après-midi, vraiment une après-midi de souvenirs. Et je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y a pas eu assez de jeunes. Parce que vraiment, c'est une après-midi de souvenirs. Et je voudrais que dans les classes, on en parle prochainement, mais vraiment qu'on leur explique aux enfants ce qui s'est passé pendant la guerre, que c'est la résistance, que c'est la déportation. C'est comme ça qu'on évitera le montée du fascisme. Il n'y a rien d'autre.
C'était un reportage de Christelle et Rémi sur les résistances. Nous allons passer la parole à Mamadou.
La chronique d'aujourd'hui porte sur le terme suivant, demandeur d'asile, réfugié, migrant, clandestin. Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile ? Un demandeur d'asile, c'est celui qui a quitté son pays d'origine pour des raisons diverses et demande auprès d'un autre pays de lui accorder un refuge. Ces raisons peuvent être persécution du fait de sa race, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe ethnique ou social, de son opinion politique. Mais ce qui est important de souligner, c'est le fait de demander l'asile auprès du pays d'accueil, que cette demande soit acceptée, qui lui donne le statut de demandeur d'asile. Un réfugié, selon l'article 1er de la Convention des Nations Unies de 1951, relative au statut des réfugiés, appelé aussi Convention de Genève, un réfugié est une personne à qui un pays accorde une protection internationale en raison des risques de perquisition qu'elle encourt dans son pays d'origine, du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou social, de sa religion, de sa nationalité, de son opinion politique. Un migrant, s'il n'existe au niveau international aucune distinction juridique du fait du concept de migrant, la définition suivante recueille un relatif consensus. Selon la conception de l'UNESCO, le migrant peut être compris comme toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né et qui a acquis d'importants liens sociaux avec ce pays. Selon la Convention internationale des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs, migrants et des membres de leur famille, Un migrant est toute personne qui va exerce ou a exercé une activité rémunérée dans un État dont elle n'est pas ressortissante. Un clandestin ou sans papier. Ces deux termes sont presque identiques et sont communément utilisés pour désigner des étrangers en situation irrégulière et laissent penser que ces personnes ont volontairement franchi irrégulièrement la frontière du pays où elles se trouvent pour y rester dans l'illégalité. Mais si certains d'entre eux sont entrés irrégulièrement, d'autres sont aussi entrés régulièrement, soit avec un visa de touriste, d'étudiant ou autre, ou encore en déposant une demande d'asile à leur arrivée. C'est le fait de demeurer dans le pays où elles se trouvent, une fois leur visa expiré, parce qu'elles n'ont pas pu obtenir le droit d'y séjourner durablement, après le rejet de leur demande d'asile, qui leur font basculer dans la clandestinité ou sans papier.
C'était une chronique de Mamadou. Maintenant, nous allons passer à la chronique musicale. Aujourd'hui, nous allons vous faire passer un artiste guinéen du nom de Baba Samba. Donc, Baba Samba est un artiste guinéen et reggae. Il débuta sa carrière en 2001 et puis son inspiration des chanteurs de tous bords, tels Salif Keita du Mali, Eminem des États-Unis, Lucky Dube de l'Afrique du Sud. Dans ce type que nous allons écouter aujourd'hui, il rend hommage à Dieu. Il mélange sonorité traditionnelle et jamaïcaine, ce qui fait de lui une étoile montante du reggae guinéen, sous l'impulsion de sa maison de production Benedi Records. Donc voici Baba Samba dans son tube Alanana qui veut dire Dieu est là.
Fake it, rap out now.
après cette chronique musicale de Eladj, nous vous proposons maintenant l'agenda de Ch'tis Boubi du mois de mai 2015. Il y aura une projection de films de Pierre Rabhi, écrivain, penseur et paysan, dont le thème est l'éveil des consciences pour construire un nouveau modèle de société, suivi d'un échange débat animé par Guillaume et Sabine de Culture Liberté. Cette projection de film aura lieu le samedi 30 mai 2015 à partir de 15h. L'entrée est libre et gratuite à tous. Et elle aura lieu au Bistrot du Coin à Kolochi.
Pour apporter son soutien au projet de rénovation du patrimoine français, les demandeurs d'asile du Kada Arja et Colère du Présent organisent une soirée slam à l'Office culturel d'Arras le 23 mai 2015 à partir de 19h30, 61 Grande Place. Sur place, vous trouverez des bières, du jus de fruits, coca, crêpes et sandwichs. L'entrée est à prix libre. Artistes invités, Sista Dre, Apnondas, la compagnie de la Colombine, le groupe de rap System D.
Chers auditeurs, c'était l'émission numéro 8 de Ch'tis Boubi avec ses différents éléments. Nous vous remercions de votre aimable attention. Tout en vous souhaitant une bonne écoute, passez un agréable moment.
Cette émission a été préparée par Christelle, Mamadou, Elage, Rémi et Julien. Bye bye.
Bye.